Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour à tous. On n'a pas fini de parler de la visite du président Joe Biden en Europe. Le début du réchauffement après l'ère glaciaire de Donald Trump et peut-être de grandes avancées sur la scène internationale avec notamment la rencontre mercredi prochain entre Joe Biden et Vladimir Poutine. Pour en parler, on retrouve Virginie Lepetit du magazine Courrier International. Bonjour Virginie. Vous titrez d'ailleurs cette semaine « Diplomatie, le bal des empires ». Et on commence par l'hebdomadaire russe Expert qui nous parle de cette prochaine rencontre entre les deux leaders américains et russes. Les enjeux sont de taille, éviter une guerre en mer de Chine et des ruptures dans l'approvisionnement de l'économie américaine.
Oui, pour Expert, le président américain veut convaincre ses partenaires européens qu'il faut amadouer la Russie. Le but ? Éviter qu'elle ne bascule définitivement dans le camp chinois. En effet, explique encore Expert, la nécessité de contenir Pékin reste un objectif majeur pour les élites américaines, traditionnelles comme nouvelles. Si on met de côté le problème de l'arsenal nucléaire de la Corée du Nord, de la sécurité de Taïwan et les autres défis inextricablement liés à la Chine, le talon d'Achille des États-Unis, c'est son économie. Le risque, en cas de rupture des liens économiques avec la Chine, ne tient pas tant aux pertes économiques directes, mais aux probables pénuries de certaines marchandises que les États-Unis et leurs alliés les plus proches ne produisent pas en quantité suffisante. Si la Chine et ses éventuels alliés décident d'interdire les exportations de certains produits stratégiques aux États-Unis, les répercussions pour les Américains pourraient être pires que celles de l'embargo sur le pétrole de 1973. Et en première ligne de ces produits stratégiques, on trouve les puces électroniques.
Des puces dont Taïwan est le principal pourvoyeur. D'ailleurs, on voit bien qu'en une de beaucoup d'hebdomadaires, Taïwan apparaît comme l'endroit le plus dangereux du monde.
C'est The Economist qui le dit en couverture de son édition du 1er mai. L'île-État est au cœur d'une bataille stratégique. Les États-Unis redoutent de n'être plus en mesure d'empêcher la Chine d'annexer Taïwan. Mais ce constat, plusieurs journaux chinois le font aussi, qui spéculent sur une invasion éclair et vont même jusqu'à s'interroger sur les chances de l'armée chinoise en modernisation constante face aux forces américaines pour le moment supérieures. Le New York Times, quant à lui, publie de la géopolitique fiction pour tenter de comprendre la compétition qui s'est nouée entre les deux puissances.
Et pour en revenir à cette rencontre, Poutine-Biden, c'est aussi un test des valeurs démocratiques, Virginie.
C'est ce que souligne en effet le Financial Times qui se demande, compte tenu de ces enjeux géopolitiques, si Joe Biden, qui s'est pourtant montré dur envers Vladimir Poutine, sera en mesure de parler de l'opposant Alexei Navalny, du journaliste biélorusse Roman Protasevich ou encore de l'Ukraine. En d'autres termes, la défense des droits de l'homme est-elle totalement compatible avec les intérêts américains ?
Et dans ce numéro, vous consacrez aussi 4 belles pages à l'Angleterre, un pays qui est géologiquement un pays de craie.
Oui, en effet, il s'agit d'un très joli texte publié dans le Guardian qui rappelle que sans le gigantesque bloc crayeux sur lequel il repose, les paysages anglais ne seraient pas ce qu'ils sont. Des falaises de Douvres aux collines verdoyantes, la craie, c'est l'Angleterre. Et la craie ne connaît pas le Brexit, car cette formation géologique se poursuit sous la Manche. Et même le tunnel construit entre l'Angleterre et la France suit son tracé, rappelle l'article.
Et pourtant, on peut dire que ce sous-sol a été longtemps dédaigné.
Oui, il était considéré comme moins noble à étudier que les roches dures métamorphiques comme le granit et l'ardoise. Or aujourd'hui, des géologues s'emparent à nouveau de ce sujet, car la craie très perméable est un aquifère géant. Elle abrite des ressources d'eau potable qu'il est aujourd'hui indispensable d'identifier et de cartographier.
Et puis on termine, Virginie, sur l'histoire de la Vespa, ce deux roues emblématique de l'italien Piaggio, dont le Spiegel relate la naissance.
Oui, l'hebdomadaire allemand nous emmène à Rome, sur les traces d'Audrey Hepburn, dans Vacances romaines, pour retracer l'histoire de cette fameuse guêpe sur roue, un succès mondial auquel même le pape a contribué. En 1956, nous apprend l'article, le pape Pie XII en bénit en personne le millionième exemplaire. Le Saint-Père célèbre alors le divin destrier, dans l'espoir, je cite, qu'il permette d'aller rendre grâce à Dieu plus vite.
Et pourtant, l'ingénieur qui a conçu la Vespa était plutôt intéressé par l'aéronautique.
Il n'était même jamais monté sur une motocyclette et les avait en horreur. Cet homme, Corradino d'Ascadio, ingénieur aéronautique, voulait concevoir un hélicoptère à la base. Mais finalement, son petit deux roues sera quand même un symbole de liberté, en tout cas pour les femmes, qui peuvent ainsi, malgré leur jupe, prendre le guidon. Car la Vespa se pilote facilement, en jupe ou la robe au vent.
Merci beaucoup Virginie Le Petit. Tous ces sujets passionnants sont à retrouver dans le dernier numéro de Courrier International, version papier ou numérique. À bientôt. Elles ont été les premières victimes de la pandémie, les femmes, à cause de la précarité économique, de la double charge du travail et de l'école à la maison, mais aussi de la violence domestique. Dans le sud de la France, à Marseille, un lieu atypique a ouvert ses portes en mars dernier. Une ancienne auberge de jeunesse accueille désormais des femmes victimes de violences avec leurs jeunes enfants. Dans la deuxième plus grande ville de France, un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté. Il s'agissait donc d'une priorité pour la nouvelle équipe municipale de gauche et pour la préfecture. Visite de l'auberge marseillaise avec Carlotta Morteau.
Au fond d'une impasse calme du 8e arrondissement, non loin des plages, se niche l'auberge marseillaise. Inoccupée depuis la pandémie, l'auberge est une véritable ruche depuis 3 mois, depuis qu'elle abrite 30 femmes vulnérables et 28 enfants.
Là, c'est le hall d'entrée.
Typique un peu d'une auberge de jeunesse avec son grand comptoir.
Complètement. Très années 2000, on a une espèce de choix de couleurs intéressant avec du vert pomme, du rouge, du bleu.
Cécile Barranger, membre de Yes We Camp, est coordinatrice de ce lieu où travaillent main dans la main 6 associations d'aide aux personnes.
C'est lumineux. Un grand écran de projection et une salle de karaoké.
Les enfants sont là.
Là, les enfants sont en train de regarder un dessin animé. Il y a ce grand planning où on marque les activités. Donc aujourd'hui, il y a la danse dehors.
L'ambiance conviviale ferait presque oublier que ces femmes ont un parcours très difficile. Certaines sont ici à l'abri d'un conjoint violent ou d'un proxénète. D'autres ont vécu longtemps dans la rue, ont été ballottées dans des centres d'hébergement d'urgence miteux. Presque toutes sont sans papier. 5 femmes dansent sur la terrasse. Parmi elles, Sabine, grande et souriante sénégalaise, maman d'un garçon de 3 ans.
Regarde, il y a des Nigériens, il y a des Ivoiriens, il y a des Comoriens. C'est la famille, il y a des Algériens, on s'entend bien, tout le monde. Avant, on était dans les 100 cases, c'était très dur, on ne sort pas, mais maintenant, on s'entend bien, on est heureux.
Ça va ? Ça va.
Premier objectif, sortir ces femmes et leurs enfants de leur isolement, favoriser les échanges en leur offrant un cadre de vie agréable.
Il y en a un qui peut être sur le grillage du poulailler. Et le tracteur tondeuse.
L'un des chantiers du moment, c'est le jardin.
Notre but ultime, c'est de faire descendre les mamans dans le jardin pour qu'elles surveillent leurs enfants. Et donc, on fait tout pour l'aménager et qu'il y ait des attractions en bas, donc des poules. Un jardin, il y a des petites choses qui poussent, de l'ombre, une cafette. Enfin, on y va à fond, là. On met les grands moyens pour l'été.
Une des spécificités de l'auberge marseillaise est son fonctionnement horizontal. Les règles de la maison sont définies par les femmes elles-mêmes, selon leurs besoins, ensemble, comme nous l'explique Cécile Barranger.
Ici, on essaie de créer un lieu émancipant, c'est-à-dire que les femmes retrouvent leur autonomie. On est arrivé avec un règlement intérieur qui était très minimum, en fait. Les choses qui sont interdites ici, c'est qu'il n'y a pas de violence, évidemment, et il n'y a pas d'hommes extérieurs qui peuvent rentrer à la structure. Les femmes, elles ne peuvent pas inviter d'hommes ici. Voilà à peu près ce qu'on a posé comme règle. Et puis petit à petit, on les a amendés avec elles. Donc chaque semaine, on se retrouve, on fait ce qu'on appelle l'agora des femmes. On essaie de dénouer un peu les problèmes. Alors souvent, ça tourne pas mal autour de l'hygiène, de la propreté du site. On partage les sanitaires, on partage les toilettes, les douches. Donc il faut faire en sorte que ça marche bien. Donc il faut organiser des tours de ménage. Mais l'important, c'est de l'organiser ensemble et que cette décision, elle vienne d'elles. Qu'elles se disent à un moment, ah bah ok, c'est dégueulasse, il faut qu'on prenne les choses en main.
Tiens, un crayon.
Constituer des équipes de ménage, mais aussi coucher tous les enfants à la même heure, à 20h30, ou encore prévoir plus de sorties à la plage ou au musée. Voilà quelques idées qui ont émergé de l'agora des femmes.
Vas-y,
lasagne blette.
Ouais, avec petits légumes d'été, poivrons, courgettes.
La cuisine aussi est un laboratoire du vivre ensemble. Les femmes sont invitées à participer à l'élaboration des repas collectifs, toujours frais, et à proposer leurs recettes.
Je suis la pâtissière de l'auberge. Ah. Oui, je prépare des gâteaux pour les anniversaires.
Certaines rêvent même d'ouvrir un restaurant si elles obtiennent leur papier. C'est le cas de Safa. Cette trentenaire très élégante et apprêtée, originaire d'Algérie, est venue en France pour faire soigner l'une de ses filles. Depuis qu'elle est à l'auberge, elle constate de grands changements.
Avant, j'étais timide, et mes enfants aussi, même à l'école. Mais maintenant qu'on vit ensemble, mes enfants, c'est bon. Ils ont l'habitude de parler avec les femmes, avec les enfants, ils ne sont pas timides.
Aider les femmes à rebondir et à s'émanciper grâce à un accompagnement médico-social quotidien et à l'implication de tous dans la vie collective, le pari est inédit, selon Sarah Goulet, éducatrice spécialisée.
Un lieu comme celui-là, je pense que ça n'existe pas vraiment. Je sais qu'on a pas mal de visites en ce moment de personnes qui aimeraient engager ce type de projet. En fait, il faut inventer de nouvelles solutions. C'est vraiment ce côté vraiment expérimental qui est intéressant aussi.
L'Auberge Marseillaise est un projet temporaire, éphémère, qui s'arrêtera en décembre. D'ici là, c'est un sas de transition pour ces femmes, une bouffée d'air frais et surtout un test grandeur nature pour démontrer qu'en matière d'hébergement et de projet d'insertion, des alternatives à l'urgence sont possibles.
On en sait un peu plus sur le coût économique de la pandémie pour les femmes italiennes. Il y a quelques semaines, l'Institut national des statistiques a publié un rapport sur le marché du travail en 2020. Il met en évidence la grande inégalité entre les hommes et les femmes, Franceline Beretti.
Évidemment, en 2020 par rapport à 2019, il y a eu des pertes d'emplois, presque un demi-million. Mais derrière ce chiffre, une grosse différence, les femmes qui se retrouvent sans travail sont deux fois plus nombreuses que les hommes. L'écart s'explique par deux facteurs. Les emplois des femmes sont plus fréquents dans des secteurs frappés par la crise, notamment le service aux personnes, et elles ont des contrats plus précaires. Ce qui signifie que même dans les secteurs relativement préservés par la crise, ce sont leurs postes qui sautent en premier. Quand il y a des embauches, car il y en a eu en 2020, on emploie moins souvent une femme qu'un homme. 20% d'embauches en moins par rapport à l'année précédente pour les hommes en Italie, 26% en moins pour les femmes. Pour l'intégration sur le marché du travail, enfin, le premier emploi, là aussi les femmes ont été pénalisées. Elles ont dû attendre plus longtemps qu'en 2019 pour trouver un travail, mais aussi plus longtemps que les hommes.
Et avec la pandémie, Franceline, la situation des femmes qui souhaitent travailler en Italie a empiré.
Oui, empiré, effectivement, car tous les problèmes liés au Covid existaient avant. La crise économique est venue se greffer sur une inégalité structurelle. Elle n'a fait qu'amplifier des tendances déjà là. Au moment où le virus arrive, par exemple, un tiers des Italiennes qui travaillent sont à temps partiel, seulement 8% pour les hommes. Les femmes sont plus facilement licenciables, plus pauvres, et les premiers signes de reprise économique en Italie ne semblent pas résorber cette inégalité qui s'est encore creusée.
C'est ce qu'on appelle, selon le titre d'un roman français, une femme puissante en Hongrie. Clara de Breff est la seule femme en lice pour affronter le Premier ministre nationaliste Viktor Orban aux prochaines législatives au printemps 2022. Une position pas facile pour cette femme de gauche qui est déjà eurodéputée, car elle est devenue le bouc émissaire de l'empire médiatique qui appartient à Viktor Orban. Mais les attaques n'entament pas sa détermination. À Budapest, Florence Labruyère.
Elle est la cible favorite des tabloïdes, comme le journal Riposte ou le site web Origo. Des médias devenus une machine de guerre au service du parti de Viktor Orban. Clara de Breff est sans cesse calomniée. Elle est traitée de communiste, d'espionne à la solde de puissances étrangères. Elle est même comparée à Elena Ceaușescu. Mais il en faudrait plus pour faire craquer Clara de Breff. On a un gouvernement machiste et chauvin, mais la Hongrie est beaucoup plus ouverte, plus moderne que ce gouvernement, assure cette brune de 49 ans. Si la droite l'a prise pour cible, c'est en raison de son passé. Presque toute sa famille était au parti communiste. Dans la famille de Breff, demandait le grand-père. Ce cadre du parti a fui le pays pendant la révolution de 56 et il est revenu avec les soviétiques pour participer à la répression de la révolution. Demandez la mère, Madame de Breff a aussi fait carrière dans le Parti communiste. Quant au père de Clara, Peter de Breff, c'est un ingénieur bulgare qui fait l'objet de nombreux fantasmes colportés par la presse de droite. Il aurait été un agent double au service du Parti communiste bulgare. Cerise sur le gâteau, Clara Dobreff est la femme de Ferenc Gyurcsány, ancien chef du gouvernement socialiste et bête noire des électeurs de droite. Tout cela n'a pas dissuadé cette mère de famille déterminée, qui parle 5 langues, de se lancer dans la politique. Elle a repris la tête de la Coalition démocratique, le petit parti de centre-gauche de son mari. Grâce à elle, le parti a fait un très bon score aux dernières élections européennes. Prochain objectif, participer aux primaires de l'opposition en septembre. Si elle gagnait, elle serait la première femme depuis des décennies à briguer le fauteuil de Premier ministre.
For more than a year, ominous rumors have been privately circulating. Music.
Let me know when you're ready.
That's a good start.
Et c'est la fin de la semaine, on retrouve Vincent Théval pour la chronique musique. Bonjour Vincent.
Bonjour Frédéric, bonjour à tous.
Vous nous emmenez aujourd'hui au Royaume-Uni après un détour par Trinidad avec un jazzman poète.
Anthony Joseph s'est d'abord fait connaître comme poète et romancier avant d'entamer, voilà, près de 15 ans, un beau parcours musical où les mots ont toujours la part belle, dit et scandé avec un sens du rythme remarquable. Et si ce natif de Trinidad installé au Royaume-Uni depuis 30 ans empruntait aux musiques caribéennes sur ses derniers albums, c'est au bouillonnement londonien que se connecte aujourd'hui Anthony Joseph en invitant notamment quelques figures majeures de la scène jazz anglaise sur The Rich Are Only Defeated When Running For Their Lives, un disque de spiritual jazz à la fois politique et poétique, inspiré par des récits d'émigration depuis la Caraïbe et par quelques grandes figures de philosophes, poètes et militants.
This was after we had buried my father in the soft earth of the Santa Cruz Valley. That same graveyard on the hill where our whole clan will eventually be replanted. And we swung dirges in the midday as the shepherd and his flock dealt with my father day. White flowers around his knee. But oh, when that first dirt dashed the casket lid, no amount of ritual can protect you from that sound when it hits. We lit candles upon the tumulus of dirt which lay heavy upon him. Heavier than when I pressed his breastbone in the chapel. While outside, beyond the farmlands, deep in the country, the river continued to run, not knowing that my father had died. And we waited until he was well settled in the dirt before we left. And back at the house, I started rapping with the cousin with the long, long dread that wrap up in a scroll, the one with the biblical name. The one who say he don't communicate by computer. This was when we were standing at the gate, ready to leave that house of mourning. This was after the jewel bag again bring out. And my brother and I had to choose which as heirlooms, the silver ring with the raised initials of his name. But he laughed and he never told me what those letters spelled when I asked him. In 1978. My English waistcoat, tall in the saddle like big scissors cutting, and Mama D, Mama D, who also loved him, and who could tell you the names of all his children, even those he forgot. She was saying, look, look how you end up where you is.
The Gift d'Anthony Joseph dans Accent d'Europe. L'émission a été réalisée aujourd'hui par Françoise Grolot. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux ou en podcast sur le site de RFI ou vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt.
It's the asafoetida that the old lady burn. All the prayers she prayed till her knees burst open. And all those orations must have conjured some power.